France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur le grand âge, le vieillissement et la dépendance. La France compte 1 300 000 personnes âgées dépendantes. Elle dépense 24 milliards d'euros par an pour le financement public de cette dépendance. Les familles, elles, déboursent 7 milliards. Les projections de l'INSEE dessinent le visage d'une France poivre et sel quand tous les babies seront devenus des papis et des mamies boomers. Voilà donc un sujet de long terme qui pourrait et sans doute devrait être traité de front lors d'une présidentielle. En dépit des propositions des différents candidats sur ce dossier comme sur d'autres que l'on va explorer dans les semaines qui viennent, au téléphone sonne, eh bien la campagne est totalement invisible. Alors prenez la parole, amis auditeurs, j'attends vos questions, vos propositions sur le grand âge et la dépendance.
Nicolas Demorand. Le téléphone sonne.
01 45 24 7000, franceinter.fr, Twitter avec le mot-clé Telson. Trois moyens donc d'intervenir dans ce téléphone sonne. La parole à Jacques qui nous appelle d'où, je ne sais pas, je n'arrive pas à le lire sur mon écran, mais je vous salue Jacques.
Bonsoir à vous.
Bienvenue, vous avez la parole.
Je vous appelle de Fontenay-le-Comte.
D'accord, très bien. On vous écoute Jacques.
C'est en Vendée. Mais rien, je disais en riant à mon correspondant tout à l'heure, je disais... France Inter va perdre de l'audience.
Et pour quelle raison ?
Mais parce que les vieux, ça intéresse personne.
Bah si, bah, moi qui commence à l'être déjà sacrément, je peux vous dire que ça m'intéresse, Jacques.
Eh ben oui, ben moi je vais atteindre bientôt 79 ans et je peux vous dire que ça intéresse personne. Je vais vous dire, j'ai eu une expérience cruelle avec une maman qui a été atteinte de maladie d'Alzheimer. Et le psychiatre qui l'a suivi et qui a déclaré qu'elle était Alzheimer m'a mis le couteau sous la gorge pour me dire « Avez-vous une maison de retraite où la placer ?» etc., etc. Et il l'a envoyé à 100 km dans un infâme boui-boui où ce qui se passait nous a tellement effrayés, ma femme et moi, qu'on l'a sorti très très vite pour la placer dans une autre maison de retraite plus proche, où on allait la voir 2-3 fois par semaine. Mais la même chose, si vous voulez, je l'entendais toujours crier en mangeant et je me demandais ce qui se passait. Et en fait, grâce à un ami médecin, j'ai pu adapter une chambre totalement à ses besoins et je l'ai fait rentrer chez moi. Et la première chose qu'il m'a dit en la voyant une heure après, c'est « Jacques, elle a la bouche pleine d'aft. On va d'abord la soigner et tu vas voir, elle va reprendre ses 4 kilos ». Mais là-bas, on me disait « Bon, on la gave ».
Donc, c'est le stade, Jacques, si vous me permettez, Jacques, c'est au-delà du stade du désintérêt, là.
Mais bien sûr, je suis au-delà du stade du désintérêt, mais moi-même, qui ai une chondropathie qui marche avec une canne, quand je traverse une rue en faisant des courses, personne ne vient me dire « Est-ce que, monsieur, on peut vous aider à traverser, etc., etc. ?» Non. On s'en fout allègrement. Et ça se voit bien. Vous avez eu dernièrement une épidémie de grippe, je le disais dernièrement, chez ma coiffeuse, on en discutait. Je lui dis, elle est plus terrible que la canicule de je ne sais plus quelle année. Et elle m'a dit, ah ben non, on en aurait parlé, etc. Mais il ne suffit pas d'en parler. Elle est plus terrible que la canicule. C'est mon toubib qui m'en a parlé. Il m'a dit, elle va être épouvantable, cette épidémie de grippe pour les vieux.
Vous avez l'impression, Jacques, d'être transparent, de ne pas être un sujet de préoccupation pour qui que ce soit ?
Oh ben, moi, je ne me fais aucune illusion. Pourquoi ? Je ne me fais plus aucune illusion. Je vis ma vie tranquillement avec ma femme à côté de moi. Ça fait 35 ans qu'on est ensemble.
Félicitations.
On est sans télé, on est sans portable, sans ordinateur. Et...
Mais gardez la radio, Jacques. Et merci beaucoup d'être intervenu au téléphone sonne ce soir. Permettez-moi de vous présenter nos invités. Pascal Chanvert, bonsoir.
Bonsoir.
Président de l'Association des directeurs au service des personnes âgées. Vous nous dites en deux mots ce que ça veut dire ?
C'est l'association qui regroupe les directeurs de services à domicile, de coordination et d'établissement pour personnes âgées.
Valentine Trépied, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue, spécialiste de la vieillesse et du vieillissement en maison de retraite médicalisée chercheur associé au centre Maurice Halbwachs. L'audience d'Inter va chuter, disait Jacques. On s'en fout des vieux, ça n'est pas un sujet. Il décrivait un certain nombre de situations où il a l'impression... j'ai employé le mot « moi », mais c'est le mot qui m'est venu à l'esprit, d'être transparent. Comment réagissez-vous l'un et l'autre? On commence avec vous, peut-être Pascal Chanvert, à ce témoignage.
Mais ce monsieur a parfaitement raison et son témoignage est tout à fait fondamental et c'est bien que vous l'ayez pris en tout début. Ce que ce monsieur décrit, c'est ce qu'est la situation dans une société agiste. On est aujourd'hui en train de d'honorer les femmes et on est dans la journée au fond de la lutte contre le sexisme. L'agisme, c'est pire que le sexisme. Pourquoi? Parce que si je tiens des propos sexistes, si je tiens des propos racistes, si je tiens des propos antisémites, si je tiens des propos homophobes, vous les repérerez tout de suite et dans la plupart des cas, s'agissant d'une radio, je serai poursuivi par la justice. Si je vous dis, depuis que je vous connais, vous n'avez pas vieilli, vous allez le prendre pour un compliment, et ça, c'est un propos profondément agiste. C'est que quand on commence à se dire que nous sommes jeunes, vous avez dit nous sommes tous vieux et vous avez bien raison. Quand on commence à se raconter que nous sommes tous jeunes, nous nous mentons parce que nous sommes tous les vieux de quelqu'un d'autre, parce que nous avons tous quelque chose de vieux en nous, et surtout, quand on applique l'agisme dans une société, ça donne ce que dit monsieur, c'est-à-dire que les plus âgés deviennent quasiment transparents, ou alors on dit qu'ils sont jeunes, ou alors on ne les regarde plus, on ne s'occupe plus d'eux. Monsieur a eu raison de dire que nous venons de vivre un drame que
la grippe,
l'Occident,
de grippe.
Un drame que l'Occident n'a pas vécu sur son sol depuis 1945. Monsieur a raison de dire que la grippe cet hiver a tué plus de personnes âgées que la canicule de 2003. En sachant que la grippe, il y a 2 ans, avait déjà tué plus de personnes âgées que la canicule de 2003. On nous annonçait récemment de l'ordre de 20 000 morts. Il y a une nouvelle statistique, une nouvelle estimation dans laquelle on nous dit, au fond, on ne sait pas vraiment. C'est tellement grave qu'on ne compte même pas le nombre de personnes, ou on les compte mal, le nombre de personnes décédées de la grippe. Mais on sait qu'il y en a plus de 16 000, c'est-à-dire plus que la canicule, ce monsieur avait raison. Imaginez 20 000 enfants qui meurent en France. Mais
on en parlerait
tous les
encore.
Médias ne parleraient que de ça. On est dans une campagne présidentielle, tous les candidats ne parleraient que de ça. Aujourd'hui, on ne parle jamais des personnes âgées, ou quasiment jamais. Vous faites bien d'en parler ce soir. C'est pas à vous qu'il faut dire qu'on n'en parle pas, puisque ce soir, vous nous avez invités pour en parler. Mais c'est un problème majeur. Nous sommes dans une société profondément discriminante. Nous devons faire avancer les choses là-dessus.
Valentine Trépied, à la fois sur ce que disait Jacques, notre auditeur, et sur ce que vient d'avancer Pascal Chanvert.
Je rejoins les propos de Pascal Chanvert sur cette société agiste, effectivement, qui discrimine les populations.
Je connaissais pas le mot, pour être tout à fait honnête. Hein. Merci de me l'apprendre, je ne le connaissais pas.
Voilà.
J'en vois bien les effets, c'est-à-dire la survalorisation de la jeunesse et le mépris absolu pour la vieillesse, voire la peur que ça peut susciter. Mais je connaissais pas le mot, mille excuses de vous avoir interrompu.
Non, pas du tout. Donc effectivement, je rejoins tout à fait ses propos sur cette société agiste en France. Mais pour aller plus loin, je dirais aussi qu'on est dans une société qui valorise des normes d'autonomie, de responsabilité individuelle, qui vont du coup à l'encontre de ces situations de dépendance, voire de grande dépendance que connaissent certaines personnes âgées. Je dirais aussi que ce terme de dépendance, moi, me convient pas trop.
Expliquez-nous.
Moi, il me convient pas du tout. Alors,
voilà.
Mais c'est important, donc parlons des mots d'abord, voilà, puisque les mots influent sur la réalité. Alors, qu'est-ce qui vous gêne intellectuellement dans dépendance?
Alors, la dépendance, c'est un terme qui est utilisé dans les politiques de la vieillesse pour désigner ces personnes âgées vieillissantes. Mais elle désigne tout d'abord, c'est un terme qui désigne, pardon, tout d'abord les relations de soumission, de domination d'un individu à l'égard tout d'abord d'une addiction. On parle de dépendance alcoolique, c'est un terme terme qui est employé pour désigner cette maladie, ou de dépendance aussi d'une addiction, une dépendance aussi à autrui. On parle de dépendance affective. Et donc, on a, dans les politiques de la vieillesse, accolé ce terme de dépendance à des populations âgées et qui, du coup, donne une image extrêmement négative de cette population. Qui sont considérées comme passives de leur destin, ben voilà, sont complètement soumises aux autres et qui du coup ne reflètent absolument pas la diversité des expériences de vie et des expériences intimes des personnes âgées.
Quels autres mots pourrions-nous employer pour décrire cette réalité ?
Alors, il y a déjà énormément de
il y a énormément de réalités, hein, bien sûr,
effectivement. Mais il y a énormément de termes qui sont utilisés. On parle de grand âge, de perte d'autonomie, mais là, le flou existe aussi sur ce thème, sur ce vocable, puisque on va associer la perte d'autonomie, faire des ponts entre la perte d'autonomie fonctionnelle ou décisionnelle.
Et puis on est encore dans la perte, donc dans la dévalorisation. On ne peut parler des personnes très âgées que,
c'est Pascal Chanvert,
comme vous l'avez dit, dans la soumission ou dans la perte. Moi, je préférerais qu'on parle de handicap, parce que ces personnes vivent, au fond, une double discrimination, par l'âge, par le handicap. Je dirais aussi, parce que les vieux sont majoritairement des vieilles, une triple discrimination par aussi le genre. On pourrait parler de fragilité, on pourrait parler de handicap. Les choses fragiles, on doit y être très attentif. Les personnes fragiles, on doit y être très attentif. Les personnes dépendantes, au fond, on dit, c'est foutu, il n'y a plus rien à faire. Donc, que l'on l'ait en maison de retraite ou enfermons-les à domicile, et parlons d'autre chose. C'est bien le drame de notre société.
Isabelle, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Marseille, bienvenue.
Voilà, sans accent, mais avec le cœur.
Nous aussi, pareil.
Bon. Juste un itinéraire parmi tant d'autres. J'ai un de mes deux parents qui, il y a 20 ans, a commencé à avoir des problèmes de santé. Donc il y a des étapes. On maintient le parent à domicile le plus possible. Et puis il y a un moment où la maison de retraite s'impose, pas parce que ça nous arrange, pas du tout, mais parce que c'est la moins mauvaise solution. Parce que la personne qui a été libre chez elle supporte très mal de ne plus l'être. Elle le supporte peut-être un peu mieux dans un lieu où c'est prévu pour. Donc on cherche une maison de retraite, on la trouve, ça coûte, je me permets de le dire, 4 500 € par mois pour quelque chose de décent. C'est une somme énorme.
Vous dites décent, hein ?
Oui, décent. Même si j'ai beaucoup de respect pour les efforts et incroyables d'un grand nombre de soignants, d'aides-soignants, d'infirmiers, d'infirmières, de gens de toutes sortes. Mais
je vous sens fatiguée, Isabelle. Hein.
Ah oui, comment vous avez dîné ? Oui, dans les familles, il y a toujours quelqu'un qui s'y colle un petit peu pour des raisons très complexes que votre sociologue pourra mieux expliquer que moi, plus rapidement. Il y a toujours quelqu'un qui s'y colle un peu, donc voilà, on prend un temps partiel et puis après il y a les problèmes de loi, la tutelle, et puis il y a les problèmes avec la famille, et puis il y a ceux qui sont très inquiets de voir le parent âgé, et puis on les rassure, et puis on essaye de se mettre du lien dans tout ça, et puis voilà.
Donc, vous pensez qu'il faudrait tout, réformer du sol au plafond ?
Oui, j'ai un côté un peu utopiste, idéaliste, mais quand même, je pense que je ne suis pas la seule à penser ça. Je pense que vraiment, il faudrait penser d'abord à ceux qui soutiennent. Enfin, pas d'abord, il ne faut pas oublier qu'il y a une famille derrière et qu'il y a des gens qui souffrent aussi de voir leurs parents décliner. Et que le plus important, c'est que les personnes âgées vivent quand même quelque chose. Ce n'est pas des gens qui ont perdu seulement, c'est des gens qui ont changé. Il faut aussi venir vers eux, essayer de comprendre ce qu'ils comprennent encore et comment on va s'adresser à eux. C'est pas forcément des gens qui ont envie d'entendre « voulez-vous danser grand-mère ?» Non, ils aiment que ça bouge, ils aiment que ça vive. Et voilà, il faut vraiment penser à la formation des soignants, il faut les payer. C'est très important. Il faut, voilà, il y a du respect à retrouver dans tous les domaines. Vers la personne âgée, pour les soignants qui s'en occupent, et pour les gens qui essayent de faire au mieux pour que ça se passe le moins mal possible, mais qui sont pas forcément très heureux de ce qui se passe.
Bien sûr. Merci beaucoup, Isabelle, pour votre appel, votre témoignage. Pascal Chanvert.
Madame a raison. Oui, il faudrait changer beaucoup de choses. Il faut, au fond, déjà faire dans notre pays ce que, puisqu'on est dans une présidentielle, ce que les précédents présidents ont promis. Moi, je souhaite que le prochain président de la République fasse sur le sujet de l'aide aux personnes âgées exactement ce que Nicolas Sarkozy avait promis, ce que François Hollande avait promis. Ils avaient promis tous les deux de mettre en place une prestation autonomie pour qu'il y ait plus de professionnels dans les services à domicile, plus de professionnels dans les établissements pour personnes âgées. Madame a raison de dire qu'il faut rendre hommage à tous les professionnels à domicile en établissement pour tout le travail qu'ils font alors qu'ils ne sont pas assez nombreux auprès des personnes âgées. Et puis troisième élément, il faut diminuer le coût payé par les personnes âgées et leurs familles en établissement et aussi à domicile, parce qu'à domicile, ça ne cesse d'augmenter. Voilà juste ce qu'il faut faire. De plus, François Fillon, Premier ministre, à la demande du président Sarkozy, avait saisi le Conseil économique et social pour savoir comment on pourrait financer cela. Le Conseil économique et social, à l'unanimité, a proposé une piste de financement. Donc on a tous les éléments sous les yeux. Il faut que les candidats à la présidentielle s'engagent, disent ce qu'ils feront. Il faut qu'il y ait un débat là-dessus. Et
mais
faut
pourquoi
qu'on
il n'y en a pas? Parce que je me trompe peut-être, mais dans mon souvenir, le seul débat moi qui me vienne à l'esprit, c'est après la fameuse canicule où j'ai eu le sentiment que face à la tragédie, la France réfléchissait pour la première fois, en tout cas moi de ma mémoire.
15 000 morts, heureusement que la France a fait quelque chose. Il y a eu des petites avancées.
Mais c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler vraiment tous de la question des âges. Oui. Depuis, j'ai l'impression que ça disparaît totalement.
Et si vous voulez, depuis, on pourrait reprendre tous les gouvernements. À l'époque, le Premier ministre était Jean-Pierre Raffarin. On pourrait reprendre tous les gouvernements depuis. Ils ont tous fait des petites choses. On ne peut pas dire qu'ils n'aient rien fait. Pour autant, ils ont fait des petites choses là où il fallait avancer grandement parce que notre pays est très en retard par rapport
à
ses voisins européens.
Mais d'où vient, d'après vous, cette réticence à poser sereinement, dans le cadre d'un débat politique, la question des âges, de la vie, de l'évolution de la vie, de l'affaiblissement des corps, de la fragilité? Comme vous le disiez, c'est quoi?
Le premier auditeur l'a dit, c'est l'âgisme, c'est-à-dire qu'on dévalorise tout ce qui concerne les personnes âgées, y compris dans le débat public. Il y a toujours d'autres sujets plus importants, il y a toujours d'autres sujets prioritaires. Et malheureusement, cette dévalorisation, eh bien, elle concerne aussi les hommes et les femmes politiques qui ne sont pas conscients, ou en tout cas très peu d'entre eux, qui ne sont pas conscients de cette réalité. Et du coup, il y a toujours d'autres priorités.
Valentine Trépied.
Je dirais que la question de la dépendance, peut-être pour les politiques publiques, est tout d'abord une affaire privée, qui est prise en charge par les solidarités familiales. C'est justement ce que votre auditrice a dit à l'instant en disant « j'aime beaucoup l'expression ». Dans les familles, il y a des personnes qui s'y collent. Alors, effectivement, on voit que la prise en charge des personnes âgées dépendantes est d'abord assurée par des aidants familiaux au sein de leur à domicile, notamment des femmes cette prise en charge par les femmes accentue fortement les inégalités de genre entre les hommes et les femmes. Ces femmes qui sont à peu près âgées de 50, 60 ans doivent à la fois concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale. Elles doivent s'occuper de leurs parents âgés dépendants, mais aussi bien souvent de leurs jeunes adultes qui restent de manière maintenant plus prolongée à leur domicile, chez elles. Et donc, ce qui fait que y a vraiment des inégalités très 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 fortes qui sont très peu prises en compte par les pouvoirs publics. Le statut d'aidant familiaux est peu reconnu, voire pas du tout, en tout cas jusqu'à présent, même s'il y a des petites avancées. La question de la dépendance, c'est une affaire d'abord privée. Voilà.
Vous êtes frustrée d'un grand débat sur le sujet au cours d'une présidentielle, tous les 5 ans. En même temps, c'est un moment où la France se regarde normalement et essaye de se projeter au moins à moyen terme, 5 ans, peut-être plus. Mais vous êtes frustrée donc de l'inexistence de ce débat?
Bien sûr, moi je suis chercheur, je travaille tous les jours sur ces questions de grande dépendance en établissement. Effectivement, je publie des articles, je fais des colloques, etc. Et c'est vrai que je suis assez surprise.
Et c'est important que ça ruisselle à un moment vers la sphère politique.
En tout cas, il n'y a pas les politiques publiques, les politiciens ne se servent pas vraiment des travaux des sociologues. Mmh. Oui, c'est une évidence.
Vous voulez dire un mot, ajouter un mot sur la frustration éventuelle, Pascal Chambert, ou la colère, hein, c'est peut-être pas le bon mot, frustration.
Frustration, peut-être colère aussi de l'ensemble des personnes âgées, de leurs familles, de ceux qui travaillent pour elles. Bon, pour autant, il faut dire qu'il y a des candidats qui disent des choses. Hein. Ça a été peu relayé. Il se trouve que, préparant cette émission, je m'y suis intéressé. Benoît Hamon a fait hier soir un meeting,
à
Marseille, sur ce thème. Ça a été très peu repris. Il a été interrogé sur les problèmes de François Fillon. Malheureusement, il n'a pas été interrogé sur ce sujet. Bon, Jean-Luc Mélenchon a dit des choses là-dessus. Emmanuel Macron en a dit. François Fillon pose une vraie question. Faut-il financer l'aide à l'autonomie par une assurance et faut-il le financer, comme il le propose, par une assurance facultative? Faut-il au contraire, comme le proposait le Conseil économique et social, augmenter, faire une petite taxe sur les successions? Voilà des sujets qu'il serait intéressant d'aborder. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais peut-être que dans les débats télévisés entre les différents candidats, vos confrères poseront des questions sur ces thèmes. On voit quand même que les politiques en parlent un peu plus cette année qu'ils n'en parlaient il y a 5 ans, qu'ils n'en parlaient il y a 10 ans, qu'ils n'en parlaient il y a 15 ans.
Donc,
ce serait faux de dire que il ne se passe rien. Mais il est clair que par rapport aux enjeux, par rapport aux situations d'épuisement des aidants, le nombre d'aidants qui meurent avant l'aider, c'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes en France qui meurent parce qu'ils accompagnent une personne âgée. Ça n'est pas acceptable. Quand on sait que dans les services à domicile, dans les maisons de retraite, c'est aujourd'hui le secteur qui a le plus grand taux de maladies professionnelles et d'accidents du travail, il y a des hommes et des femmes donc qui perdent leur santé à essayer d'aider du mieux qu'ils peuvent des personnes âgées parce que la société ne les aide pas assez. Tout ça n'est pas acceptable et il faut effectivement qu'il y ait des débats sur ce sujet.
Alors, l'enjeu de ce téléphone sonne, je le précise, hein, c'est bien évidemment de faire en sorte que nous puissions débattre. Ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas de proposition dans les programmes des candidats. Il y en a, je l'ai dit en commençant. On aimerait voir maintenant les visions du monde s'entrechoquer. Joëlle, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci.
Vous êtes directrice de maison de retraite?
Voilà, je suis directrice de maison de retraite dans la région centre, donc directrice d'EHPAD, et je salue Pascal Chambert qui porte la parole de notre corps professionnel.
Bonsoir.
Comment ça se passe chez vous, Joël?
Alors, ça se passe très difficilement. Moi, j'ai un climat social très compliqué qui est lié à un problème qui est majeur, c'est les troubles du comportement des résidents. Hein. On est en cours d'évaluation sur le degré de dépendance et de pathologie de nos résidents. J'ai plus de 60% de personnes hébergées qui présentent des signes de démence. Et on a une fin de non-recevoir ou un délai qui nous est reporté au calende grec sur les prochaines contractualisations pour avoir des postes supplémentaires. Or, tous les jours, moi, j'ai des personnels qui se font frapper, qui se font insulter parce que je travaille en gériatrie depuis 25 ans, j'ai d'abord été infirmière, maintenant je suis directrice de maison de retraite depuis 6 ans. J'ai assisté à une augmentation de la qualité, une augmentation de l'exigence de bien-traitance, on a supprimé les camisoles chimiques, mais on n'a pas apporté les effectifs suffisants pour mettre en place des activités thérapeutiques non médicamenteuses, occupationnelles pour des personnes qui sont en grand besoin de temps humain. Ces accompagnements qui existent à minima, voire qui n'existent pas, ils apportent, et ça c'est prouvé, de l'apaisement, une meilleure nutrition, une meilleure résistance aux pathologies. Et quand on n'a pas suffisamment d'effectifs, il y a des troubles du comportement qui sont quotidiens et qui amènent à des situations qui sont peu médiatisées mais qui existent pourtant. Ce sont des cas de décès suite à violences entre résidents. Ça, ce sont des choses qui ont existé, qui arrivent plusieurs fois par an.
Et moi, plusieurs fois par an, Joël ?
Oui, je peux vous le garantir. Donc, heureusement, ça ne s'est pas produit chez moi, mais je suis très vigilante et j'en discute très souvent avec mes employés. Et je fais remonter de la part de mes collaborateurs un sentiment d'hypocrisie qui est perçu par rapport aux exigences qui sont annoncées, qui étaient annoncées. Pascal Chambert a parlé tout à l'heure du plan Alzheimer, du plan Solidarité Grand Âge, les exigences qui sont demandées et les moyens qui sont accordés. Donc ma question, c'est quand mettra-t-on suffisamment d'effectifs pour effectivement assumer la rançon du progrès médical, qui est l'allongement de la durée de la vie et parfois la survenance de handicaps liés à l'âge.
Merci beaucoup Joël pour votre intervention. La parole à Valentine Trépied.
Alors, la réalité que décrit votre auditrice, effectivement, elle est relativement banale, si je peux dire. En tout cas, elle est souvent récurrente quand on passe du temps dans les établissements. Le manque de moyens humains, il est patent, effectivement. C'est quelque chose de récurrent. Que ce soit des établissements du secteur privé à but lucratif, mais aussi dans le secteur public. Il n'y a pas de grande variation du personnel soignant selon ce type d'établissement. Donc effectivement, le problème du personnel, je dirais aussi, moi, enfin en tout cas c'est mon point de vue, problème de la formation aussi du personnel. Je trouve qu'on est arrivé à un stade vraiment de formation très très gériatrique, très médical, destiné aux personnes âgées dépendantes, et peut-être qu'on arrivait à bout là de quelque chose.
Il faudrait quelque chose de plus relationnel, exactement, de plus social.
Exactement.
C'est-à-dire considérer la personne âgée comme une personne, avant de la considérer comme une maladie.
Voilà. Oui, c'est tout à fait ça, et ne pas la considérer uniquement comme une personne malade, dépendante, pour rejoindre tout à l'heure ce qu'on a dit, complètement passive. Voilà. Dans les établissements, il y a vraiment une injonction contradictoire que moi j'ai pu observer, c'est cette exigence demandée, comme vous l'a dit votre auditrice, et c'est cette valorisation du maintien, enfin de l'accompagnement au maintien de l'autonomie des résidents. Comment on peut maintenir l'autonomie des résidents alors que
on est dans un milieu fermé et protégé.
Voilà, ouais. Avec des pathologies cognitives extrêmement fortes parmi la population.
Pascal Chambert.
Alors je continue sur l'hypocrisie parce que je suis d'accord avec Joël et avec Valentine Trépied. Je continue sur l'hypocrisie. Il faut savoir, et là je demande à tous les candidats à l'élection présidentielle, s'ils s'engagent à supprimer le décret de décembre 2016 qui va conduire à de nouvelles baisses de personnel en établissement.
Expliquez-nous.
Il faut bien savoir, écoutez, ce serait trop compliqué.
Non mais en deux mots, on n'est pas complètement débile non plus, donc si c'est compliqué, vous pouvez simplifier et on peut comprendre.
Écoutez, il y a un principe dans ce décret, il y a un principe qui va conduire à la diminution du nombre de professionnels, du budget d'un certain nombre d'établissements et donc du nombre de professionnels dans ces budgets d'établissements. Ça s'appelle le système de la convergence pour les tarifs dépendance. C'est cela dont il s'agit. Deuxième hypocrisie. On dit, les établissements, il y a des choses qui vont pas bien, alors faut que tout le monde soit à domicile. Vous voyez ? Faut que tout le monde soit à domicile. C'est précisément là où les salariés sont les plus mal payés. C'est précisément là où les salariés sont en plus grande difficulté. Donc, on est dans une situation totalement contradictoire. Au fond, reconnaissons-le, quand les personnes âgées sont à domicile, dans une société agiste, c'est l'idéal parce qu'on ne les voit pas. Le problème dans une société agiste, c'est que quand les personnes âgées sont en maison de retraite, on les voit et ça dérange tout le monde parce que personne ne veut les voir. Donc on dit, laissons-les à domicile, comme ça on ne les verra jamais. On parle toujours des maltraitances en établissement. Bien sûr, parce que cela se voit. Il faut jamais oublier, selon tous les spécialistes, toutes les autorités compétentes extérieures à la profession, que 80% des maltraitances, elles ont lieu à domicile. À domicile, mais elle ne se voit pas. En fait, l'établissement est un révélateur. L'établissement nous dit, il y a des personnes âgées fragilisées et elles font peur à tout le monde, donc on ne veut pas les voir. Et le domicile, par contre, on ne le voit pas, donc on ne voit pas la difficulté des services à domicile qui aujourd'hui sont en grande souffrance, les professionnels mais aussi l'ensemble des structures, et on ne tient pas compte non plus suffisamment des personnes qui vivent à leur domicile. Ce qu'il faut, c'est faire effectivement une prestation autonomie qui permette d'accompagner correctement les personnes âgées de notre pays.
C'était très clair, hein. Merci d'avoir pris le temps d'expliquer les choses. Bonsoir Philippe.
Philippe, bonsoir.
Nous vous écoutons, bienvenue.
Oui, bonsoir. Moi, je suis justement directeur d'une association d'aide à domicile dans le territoire de Belfort qui s'appelle Domicile 90. Nous employons 350 salariés et tous les jours, nous intervenons chez 700 personnes âgées. Et ce qu'ont dit vos précédents interlocuteurs en matière de respect et d'hypocrisie, c'est exactement les mots que j'avais en tête en vous appelant tout à l'heure. Le respect dû aux personnes chez qui nous intervenons tous les jours, dans un contexte extrêmement tendu, comme vient de le dire M. Chanvert, et le respect qui est dû à nos salariés, et qui malheureusement, dans le modèle économique qui est le nôtre aujourd'hui, et qui est tissé d'hypocrisie, c'est que nous ne pouvons pas garantir la qualité de service que les personnes sont en droit d'attendre. Ça, c'est un premier point que je voulais souligner. Le second, c'est la question de la ressource. Combien de personnes chez qui nous intervenons n'ont pas les moyens de se payer les services dont ils ont besoin, qui n'ont pas les moyens de mettre le reste à charge qu'il leur est demandé. Et c'est vrai que ce que vient de dire votre interlocuteur à l'instant sur l'invisibilité des services à domicile, pourtant qui recrute et qui embauche des dizaines de milliers de personnes dans tout le pays, avec des directeurs de structures comme moi-même, des conseils d'administration, des bénévoles qui essayent de sortir de l'ornière, dans un cadre économique qui est très directement lié à la loi de 2005 de dérégulation de ce secteur d'activité, qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de la qualité, pas les moyens de recruter du personnel, alors même que les besoins vont aller croissant. Et que l'on nous dit à longueur de colonne et à longueur de programme électoral depuis des années, combien il est fondamental d'assurer le maintien à domicile le plus longtemps possible des personnes âgées. Donc, j'ai pas vraiment de questions à vous poser. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans lesquelles je me reconnais beaucoup. Moi, je pense à mes collègues qui actuellement travaillent, sont en train de coucher les personnes, de leur donner à manger, de les réconforter et qui après vont rentrer chez elles après avoir passé une journée de travail compliquée sur un travail non reconnu et mal payé et sur lequel des structures comme la mienne, mais pas seulement, dans toute la France, essayent de trouver les moyens de valoriser leur travail en respectant les personnes et les familles chez qui nous allons et n'en ont tout simplement pas les moyens.
Merci Philippe pour cette intervention. Je vais donner tout de suite la parole à Patricia. Il y a énormément de monde au standard du téléphone sonne ce soir. Signe qu'il y a un appétit pour le débat, un intérêt pour la question. Bonsoir Patricia.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Voilà, oui. Écoutez, moi je vous téléphone en tant qu'infirmière d'EHPAD. C'est vrai que les moyens sont de plus en plus restreints, mais nous sommes aussi en équipe confrontés à certaines familles qui ne comprennent pas pourquoi leurs parents d'un très grand âge n'est pas en forme. L'exemple type, c'est l'après-midi, pourquoi mon père ou ma mère est resté au lit, aujourd'hui ça ne va pas. En fait, ce sont des personnes qui ont bien souvent passé 95 ans, puisque la moyenne d'âge est très élevée dans notre établissement. Et il y a cette espèce d'incompréhension face au grand âge qui est là et qui demande de la part des soignantes une présence, une prise en charge de qualité qu'on essaie malgré tout, malgré le peu de moyens, de faire au mieux, mais qui ne demande plus vraiment une médicalisation avec de l'animation, avec des choses extrêmement extrêmement pointues. Il faut laisser la personne à un certain moment se reposer, et puis il faut laisser la personne s'éteindre aussi tranquillement. Et c'est vrai que là, au niveau des équipes, nous sommes souvent confrontés à même parfois une certaine rébellion des familles par rapport à ça, pensant qu'on ne fait pas bien notre travail, alors qu'en fait, c'est le respect de la fatigue du grand âge qui arrive avec qu'on doit prendre avec une certaine sagesse. Voilà, c'était juste ce témoignage.
Eh ben, c'est un très beau, très fort et très important témoignage. Merci Patricia. Valentine Trépied, quelques mots. Pascal Chanvert, quelques mots également. Nous approchons malheureusement du terme de cette émission.
Oui, les familles se sont beaucoup investies au sein du domicile du parent âgé dépendant avant que la personne rentre en établissement. Donc effectivement, comme elles se sont beaucoup investies, elles aimeraient pouvoir peut-être s'investir encore plus aussi.
Il faut savoir passer la main aussi à un moment et ne plus être dans le contrôle, j'imagine.
Voilà, et exactement. Elles payent aussi ces familles. Il faut pas oublier que elles payent, comme l'a dit tout à l'heure un de vos auditeurs, elles payent cher. Et donc, elles sont aussi dans une relation de client, de prestation.
Voilà. Je voudrais donner la parole, je vous la donne tout de suite, Pascal Chanvert, mais à Simone, qui nous appelle de la Drôme et qui attend depuis 5 minutes déjà, c'est trop. Bonsoir Simone.
Oui, bonsoir à tout le monde.
Bienvenue.
À titre préventif, je pense qu'il faut absolument que dès notre jeunesse, on regarde les personnes âgées, sachant qu'on va devenir comme elles. Mmh. Et c'est un très beau cadeau à faire à notre famille, à nos jeunes, que de faire tout ce qu'il faut pour rester en forme, de se tenir au courant de la vie sociale, familiale, européenne, mondiale. Et comme ça, on est des interlocuteurs valables pour tous les âges. Et surtout, si on ne prend pas des petits airs de supériorité parce qu'on est vieux et qu'on sait tout. J'ai 86 ans, j'estime que les jeunes de 20-30 ans, surtout maintenant, ils savent beaucoup de choses aussi et j'en apprends tous les jours avec les jeunes aussi. Il y a un échange, une réciprocité formidable. On reste en forme, on n'encombre pas les maisons de retraite, on ne devient pas des déchets. Hein.
Mmh. Aucun homme ou aucune femme n'est jamais un déchet, Simone.
Ah ben, pour certains, si.
Oui, mais... Dans une société démocratique, aucun homme et aucune femme ne peut être un déchet. Jamais.
Simone,
jamais. Non, je sais bien, mais j'ai vécu ça pour mon père, qui avait rendu service toute sa vie. Et quand il n'a plus été capable, qu'il était grabataire, eh bien, à l'hôpital, on s'occupait de lui. Mmh. Ce qui fait qu'on lui a fait cadeau de le ramener à la maison, de faire l'hospitalisation à domicile. Et il est mort à domicile et heureux. Mmh.
Mais Simone, j'entends que chez vous, dans votre famille, le dialogue et la circulation de la parole entre les différentes générations se fait de manière plus simple et chaleureuse.
Oui, oui, non seulement dans la famille, mais dans la commune, dans les mouvements, les associations dont je fais partie. Tout se passe très bien et on me considère pas comme une vieille. J'ai quelques ennuis de santé physique et donc il y a des égards pour moi. Mais la parole, dans la parole, il y a une réciprocité qui est formidable et j'ai pas du tout l'impression que je suis prête à rentrer dans une maison de retraite. Je crois que tout le monde serait catastrophé.
Merci beaucoup Simone d'avoir appelé France Inter et d'être intervenue ce soir au téléphone sonne. Longue vie, comme on dit chez moi, longue vie à vous. Un mot Pascal Chanvert.
Un mot par rapport à l'intervention de l'infirmière tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu injuste parce que les professionnels qui travaillent auprès des personnes âgées, c'est ceux qui s'occupent le plus des personnes âgées en France, avec les aidants, avec les familles. Et souvent, c'est eux qui sont accusés de tout ce que n'ont pas fait les pouvoirs publics, c'est-à-dire en faisant qu'on s'occupe suffisamment bien des personnes âgées. Et ça, c'est extrêmement inconfortable. Pour autant, moi, j'inviterais toutes celles et tous ceux qui se posent des questions à venir travailler dans ce secteur, malgré la difficulté d'y travailler, parce que ce secteur, il est éminemment enthousiasmant, parce qu'on travaille pour des hommes et des femmes qui nous montrent que la vie est précieuse, qui nous montrent que l'on peut faire beaucoup. Il y a des jeunes qui vont faire de l'humanitaire dans des pays qui souffrent et c'est utile de le faire. Il y a aussi des gens qui peuvent faire de l'humanitaire en France, c'est en s'occupant de ceux dont on ne veut pas s'occuper, c'est-à-dire les personnes âgées. Et ça, c'est extrêmement enthousiasmant, il y a beaucoup à faire.
On va en rester là, malheureusement parce que le sujet est passionnant dès lors qu'on accepte de le regarder comme on l'a fait, de manière tout à fait ouverte. On va pouvoir dire aux hommes et aux femmes politiques qui sont en campagne ou à leurs entourages qu'il y a eu un nombre absolument extraordinaire d'appels ce soir au téléphone sonne. Mille excuses, amis auditeurs, si on n'a pas pu vous donner la parole, mais en tout cas, ce sujet intéresse. Les auditeurs ont envie, besoin de parler, d'échanger, et on va essayer de le faire dans les semaines qui viennent jusqu'à l'élection présidentielle sur un certain nombre de sujets. La campagne invisible, donc, comme on a appelé les choses, commencer ce soir avec vous. Merci Pascal Chanvert, merci Valentine Trépied. Elle se poursuivra la semaine prochaine.